Et notre émission spéciale se poursuit, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit 30. Peut-être un mot quand même, vous l'avez entendu, Guillaume Tabar, pardonnez-moi, vous l'avez entendu à l'instant, Gabriel Attal, c'est peut-être la charge la plus violente ce soir contre Emmanuel Macron, et ça vient de son propre camp.
Oui, en même temps, cette charge, elle ne surprend pas parce que ça fait quand même un bout de temps maintenant, en gros depuis qu'il a repris les rênes du parti Renaissance, le parti fondé par Emmanuel Macron, que Gabriel Attal se construit en détruisant Emmanuel Macron. Lors de son dernier meeting, c'était déjà sa charge. Il veut montrer maintenant qu'il est libre, qu'il est indépendant. Gabriel Attal n'a toujours pas digéré la dissolution. Alors, politiquement, il y a peu de monde, à part Emmanuel Macron, à l'avoir comprise. Mais lui, il l'a d'autant moins digéré que c'est ce qui a mis un terme à son bail à Matignon.
Donc il ne peut plus supporter.
Oui, depuis j'allais dire la boussole de Gabriel Attal, c'est de critiquer Emmanuel Macron. Mais là, vous avez raison, c'est que les oppositions, on vient d'entendre Manuel Bompard, que Marine Le Pen, ça critique, cogne même sur Emmanuel Macron.
Ils sont dans leur rôle.
C'est normal. Bon, que un des alliés du socle commun, LR, rue dans les brancards, comme Bruno Retailleau l'a fait dimanche, c'est déjà plus inquiétant pour le chef de l'État, mais que les trois présidents du parti qui est censé composer la Macronie, les trois partis, Renaissance avec Gabriel Attal, Horizon avec Édouard-Philippe, je pense que demain matin, il est sur une radio, j'ai cru comprendre qu'il allait ne pas être d'une grande tendresse envers la stratégie du président.
Vous avez eu quelques infos
Écoutez, on l'écoutera demain, mais je pense qu'il ne sera pas tendre. Et quant à François Bayrou, à tête du Modem, je crois qu'il n'en pense pas moins. Donc, les trois patrons des partis sur lesquels est censé reposer l'autorité d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'ont qu'une obsession, c'est de régler leur compte avec le chef de l'État.
Donc, ça veut dire quoi, Bruno Jeudy? Il n'y a plus de socle commun, c'est terminé?
Le socle commun, depuis hier soir,
a souffert.
Oui, il y a un peu des trous dans la carlingue. Et c'est vrai que la question qui se pose ce soir, c'est quid du socle commun? On voit bien que on imagine mal Bruno Retailleau revenir dans une nouvelle attelage. Très compliqué. Il est parti hier soir. Il faudra reprendre peut-être et savoir exactement ce qui s'est passé parce que visiblement il s'est révélé pas très très bon négociateur pour son propre parti. C'est ce que lui ont reproché plusieurs membres de son parti. Après Gabriel Attal, je partage l'avis de Guillaume. Gabriel Attal, ça fait déjà un petit moment qu'il est très amer, voire plus à l'endroit d'Emmanuel Macron. C'est vrai que ce soir la charge est très très lourde, surtout sur une journée déjà compliqué pour le président de la République et le président de la formation, la première qui doit le soutenir, commence son intervention. C'est la première phrase qu'il a prononcée, donc on imagine qu'il l'avait bien réfléchi. Il arrive devant notre confrère Gilles Boulot et il dit, comme
beaucoup
de Français,
je ne comprends plus les
décisions du président de la République. Avec ça, il est bien défendu, le président de la République. Donc, maintenant, Gabriel Attal, ça fait maintenant presque un an, la dissolution n'est jamais passé. Bon, d'ailleurs, les Français ne l'ont jamais comprise. Donc, le socle commun est en très grande difficulté ce soir, c'est incontestable. Et quant à Édouard Philippe, Guillaume a bien décrit la situation. Il y a longtemps, lui, qui s'est émancipé du président de la République. D'ailleurs, il est sorti de l'Élysée en étant limogé par le président. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il surfe depuis 5 ans. Et qu'il tient qu'à un cas dans les sondages, malgré tout.
Le socle commun qui se réunit demain à 9h à Matignon, ça présage...
Non, mais ils soutiendront. S'il y a une solution, ils la soutiendront. La question n'est pas de savoir s'ils vont tirer contre la solution du président, si tant est qu'il y en ait une. Je pense que Sébastien Lecornu, en bon moine soldat qu'il est, serre une dernière fois Emmanuel Macron, c'est la der des ders, il va tenter de trouver...
Il va tenter de trouver
une solution, mais c'est un truc encore incroyable. Là, Emmanuel Macron nous a inventé un truc
hallucinant. Peut-être qu'on peut expliquer aux téléspectateurs qui nous rejoignent peut-être, parce que quand même la situation est compliquée et il faut suivre les moult rebondissements de la journée. Sébastien Lecornu, qui a donc démissionné ce matin, a été chargé par Emmanuel Macron de mener d'ultimes négociations, je cite, afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Laurent Jacobelli du Rassemblement National nous a rejoint. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces négociations?
Rien. absolument rien. D'abord, même le vocable, même le vocable est tellement macroniste qu'il en est risible. Et c'est exactement le type de formule dont les Français ne peuvent plus. Ça ne veut rien dire, c'est fourre-tout et c'est pour cacher le manque d'idées. Moi, ce que je vois, c'est que on est en train d'assister à l'agonie de la Macronie. C'est pour ça que tous les opportunistes s'en vont. On a parlé de M. Attal, on a parlé de M. Retailleau qui s'est carapaté, on peut parler de M. Édouard Philippe. Tous ceux qui sont venus pour avoir des postes, tous ceux qui sont venus sans conviction, tous ces mercenaires de la politique, et bien quand ils sentent le vent tourner, s'en vont. Et c'est le meilleur signe que le macronisme s'est terminé. Ils l'ont tous compris, tous sauf un, Emmanuel Macron, qui va persister en prenant toujours la même recette, en prenant trois vieux centristes rance, deux vieux LR rabougris et un socialiste en manque de poste. Et il va croire qu'avec ça, il va faire une majorité. Non, c'est fini. C'est fini la Macronie. Ça ne marchera plus. Mercredi soir, il y aura un échec. Mercredi soir, il n'y aura pas de gouvernement. Et la seule solution, c'est la dissolution. Pour que les Français se prononcent, choisissent leur majorité, et j'ai la faiblesse de penser qu'ils choisiront une majorité Rassemblement National, pour avoir une vraie politique, un gouvernement soutenu par l'Assemblée.
Alors, Manuel Bompard, vous êtes comme Manuel Bompard à l'instant, qui disait sur le même plateau qu'il appelait à une dissolution, voire une destitution.
Mais comme tout le monde, tous les observateurs politiques, et même...
Destitution ?
Dissolution. Mais même les amis d'Emmanuel Macron disent aujourd'hui... Il n'y a qu'une seule solution, c'est la dissolution.
Alors vous savez quoi, on va évoquer les différentes options. Mais juste avant, qu'est-ce qui est en train de se passer, Victor Hérault ? Il donne 48 heures donc à Sébastien Lecornu pour trouver une solution, pour qu'il négocie quoi avec les Républicains pour les avoir, les garder dans son gouvernement, puisque Bruno Le Maire, finalement, sentant qu'il posait un petit peu problème, a dit bah, finalement je me retire pour faciliter la tâche à Sébastien Lecornu. Est-ce que ça peut marcher ?
Non, je pense qu'il y a des moments où il faut arrêter d'essayer de comprendre, si vous voulez. Là, on est rentré dans un espèce de, moi je veux bien le jeu du 48 chrono, alors ça y est, on va tout régler en 48 heures. On a l'impression d'être dans les arrêts de jeu, si vous voulez. Emmanuel Macron gagne du temps, alors qu'on sait très bien que, si vous voulez, Sébastien Lecornu n'arrivera pas en deux jours à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire en plus de trois semaines. Il n'arrivera pas à convaincre Bruno Retailleau, qui est d'ailleurs le seul président du socle commun à ne pas se rendre à la réunion demain à Matignon.
Lui veut une réunion bilatérale.
Exactement, et d'ailleurs, Sébastien Lecornu lui a proposé des dates demain matin, et Bruno Retailleau a dit, non, je fais une matinale, je ne m'y rendrai pas. Donc c'est vous dire à quel point il a de l'importance, rendez-vous avec Sébastien Lecornu représente quelque chose à ses yeux. Non, en revanche, je n'irai pas jusqu'à dire que le socle commun est mort, parce que je pense que c'est l'union autour d'Emmanuel Macron qui est morte et enterrée, ça depuis un bon moment. Mais le socle commun subsiste encore dans le sens où il reste le seul pôle capable ou non de construire une majorité, mais en tous les cas qui essaie de conserver cette ambition-là. Et puis surtout, attention, avant 2027, il y a quand même l'option d'une candidature commune au centre et à droite. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là ne se parleront plus jamais et plus du tout. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aucun ne veut être affilié à Emmanuel Macron, que ce soit François Bayrou, Édouard Philippe, Gabriel Attal ou Bruno Retailleau. Ça, c'est fini. Il ne faut plus parler avec Emmanuel Macron, il ne faut plus s'en référer au président de la République. Et encore une fois, cette histoire de 48 heures chrono, je ne vois pas ce que ça va régler à la question. LR a déjà dit que c'était foutu, le Parti Socialiste a déjà dit que c'était foutu, le reste de la gauche encore plus, et le Rassemblement National aujourd'hui, puisqu'ils ont changé de stratégie et qu'ils disent maintenant on censure a priori tout gouvernement. Donc là, franchement, il n'y a plus rien à aller chercher.
Quel qu'il soit, effectivement. Mais quand il dit qu'il prendra ses responsabilités, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est en train de dire je brandis directement la menace de la dissolution. Si on ne trouve pas de solution, ce sera la dissolution. Et donc, ça ne ferait pas tellement plaisir aux socialistes, notamment.
Écoutez, je prends toutes mes responsabilités. C'est le type même de la phrase qui fait martial dans le ton et qui ne veut strictement rien dire. Quand on est président de la République, on ne prend pas ou on ne refuse pas de prendre ses responsabilités. On applique des prérogatives constitutionnelles, point barre, où on décide. Bon, dire « je prends mes responsabilités », qu'est-ce que ça veut dire ? D'autant que je pense que dans l'esprit du président, qui est quand même très remonté contre LR depuis hier, hein, il en veut énormément à Bruno Retailleau et à LR, et moi, tel que j'ai compris, ou tel que des proches du président m'en ont fait l'exégèse, cette phrase, c'est aussi pour dire à la droite, je prends mes responsabilités, ça veut dire, puisque vous ne voulez pas rester avec nous, je vais me tourner vers la gauche. Donc, vous voyez, la menace, c'est ça. Parce que dire, attention, je vais vous menacer de la dissolution, on ne menace pas les autres de quelque chose qu'ils réclament et qu'on est le seul à refuser. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, celui qui serait le plus embêté par une dissolution, c'est quand même Emmanuel Macron, parce qu'il serait obligé d'avouer.
Bah, les LR ne réclament pas la dissolution. Et le PS non plus.
Vous avez tout à fait raison, c'est vrai que LR, d'une part.
En fait, personne ne réclame la dissolution, à part M. Jacobi.
Le Rassemblement National.
C'est très intéressant, si je peux me permettre, de remarquer que le PS et les LR ne réclament pas la dissolution, et qu'ils réclament d'aller au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont peur du suffrage universel, ils ont peur d'aller rencontrer les électeurs. En revanche, le pouvoir, ils le veulent. Je pense qu'à un moment, on est en démocratie, dans la 5e République.
Oui, enfin, à leur place, ce serait pareil.
Non, je ne crois pas. Bon, c'est aux citoyens de choisir.
Moi, je trouve ce spectacle affligeant, parce qu'on voit les politiques faire mumuse Emmanuel Macron. Il leur dit, je vais prendre mes responsabilités, je vais vous faire tomber si vous faites pas ce que je vous ai demandé de faire, à savoir si vous préservez pas la réforme des retraites que j'ai votée. Parce que c'est ça qu'il y a derrière la chute de Le Cornu, c'est qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout et à changer de cap pour trouver une majorité. Depuis plus d'un an, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Je pense que tous les Français l'ont compris, mais pas la classe politique. Et moi, c'est ça que je trouve très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sondage qui sort, il y a 86% des Français qui jugent la politique comme un spectacle navrant. Mm-hmm. Mais enfin, ça suffit, en fait. Parce que ce qui fait Emmanuel Macron...
fragmenter l'Assemblée, les Français. Et,
exactement, c'est ce que j'allais dire.
Les Français, on ne leur a pas présenté
ils
le projet.
Ont fait le choix
les Français, il y a eu une élection présidentielle en 2022 où il y avait un président de la République qui n'avait aucun projet. Mm-hmm. On est en train de vivre un quinquennat pour rien, 5 ans pour rien. Et moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que derrière les politiques qui font mumuse, alors on va commenter, c'est intéressant, hein, c'est comme commenter un match de foot, moi je trouve ça divertissant, mais derrière ce divertissement qu'on est en train de vivre ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a les marchés financiers, il y a les milieux économiques qui s'effondrent, allez voir les entreprises au tribunal de commerce, on en parlait juste avant l'émission, il y a les ingérences étrangères, Poutine il se frotte les mains là quand il regarde notre petit spectacle.
C'est pour ça qu'il essaie de trouver une solution.
Il y a la fatigue informationnelle, vous savez qu'il y a un adulte sur 5 qui est en burn-out en France aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il faut
Mais moi, ce que je trouve effrayant, c'est que j'ai l'impression que n'importe quel citoyen lambda serait capable de comprendre des choses simples. Donc, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, ça, on a tous compris. Numéro 2, il faut faire des compromis. Alors, un mot que les politiques ne comprennent pas. Et numéro 3, personne ne va être content jusqu'à 2027. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on doit comprendre collectivement. Et puis après, on essaye juste de faire passer un budget.
Mais est-ce que vous,
chez
les écologistes, vous comprenez ce mot de compromis?
Alors, moi, je suis dans aucun.
Vous n'êtes pas, mais pardon. Mais vous êtes, alors, je vais dire précisément, vous êtes militante écologiste, donc on imagine pour qui vous roulez, non?
Je roule pour personne, à part pour moi-même. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, quand on n'est pas en politique, professionnellement, ce spectacle est effrayant.
Oui, mais Flora, vous ne pouvez pas dire font mumuse. Sébastien Le Cornu, il a essayé pendant un mois de trouver un compromis. Ah oui, il n'a pas fait
26
mumuse.
Jours.
Mais bah,
je trouve même qu'aujourd'hui, il a plutôt été digne dans sa déclaration.
Bien sûr.
C'est rare qu'un homme politique décide de faire ce qu'il a fait.
Il ne s'est pas accroché.
Donc, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'ils font mumuse. Ils ne font pas mumuse, ils ont essayé pendant un mois. Le problème, c'est que les chefs de parti, ils sont dans des contraintes parce qu'ils sont tous. Ils sont près des municipales, on s'approche des présidentielles, et donc en fait, ils veulent rien lâcher. Ils veulent bien que les autres lâchent.
Là où je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Bruno, je dis, parce qu'on discute tous avec des parlementaires et de façon indépendante, quand on discute avec eux, ils sont plutôt dans le bon sens. Et vous venez de mettre le doigt sur le problème, c'est qu'en fait, vous avez des chefs de parti qui disent non, il ne faut pas, parce qu'ils veulent gérer leur propre carrière à eux. Et on est dans une espèce de. Pardon, mais en entreprise, on dit des fois, ça peut être un panier de crabes. Mais en politique, moi, j'ai découvert un truc. Hein. Il y a une quantité de Brutus et de Judas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein.
Il y a la règle des 3 L.
Ça a toujours été comme ça.
Mais vous l'avez découvert là,
non mais voilà, elle se révèle. Mais en fait, c'est toujours.
L'archéologie,
non mais c'est pas l'archéologie. Mais il y a une règle. Peut-être, mais moi je suis pas. Observateur de la vie politique et je vois que cette règle, pardon, des 3 L que je trouvais dépassée, qui est le lèche, lâche, lynche, elle s'applique là. On est en plein dans le lynche. Pleine balle. Et franchement, j'entends le socle commun est en difficulté. Non, pardon. C'est les Français qui sont en difficulté des entreprises.
Ah oui,
et aujourd'hui, quand je vois le nombre d'entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, parce que le problème numéro un, c'est les problèmes de trésorerie. Les problèmes de trésorerie sont liés à quoi? À l'incertitude dans les marchés. Au fait que les banques, elles ont dit stop, on arrête de financer. Je vais vous donner une information. Et j'espère que ça va changer. Vous avez la Banque publique d'investissement. Ils n'investissent plus rien dans notre secteur.
plus rien, plus un euro.
Et depuis quand?
Et je vais vous donner même deuxième information.
Depuis quand?
Voilà, depuis le mois d'août. Et ils ont, sur octobre, novembre et décembre, ils prévoient des pics en cascade de défaillance d'entreprise. Le pic sera entre octobre et décembre, avec en plus une cascade sur les fournisseurs qui eux-mêmes vont être impactés, etc. L'économie, c'est une chaîne et c'est sérieux. Et j'aimerais juste rappeler, et je parle sous couvert de notre ami Edwige Chevrillon et de notre ami du Figaro, le Royaume-Uni est un exemple qu'il ne faut surtout pas suivre. Après le chaos de Liz Truss en 2022, hein. En un mois, elle a mis le pays par terre. Donc ceux qui disent « Oh, il faut m'essayer, il faut machin », non. En fait, en un mois, on peut mettre un pays par terre. Donc on a juste envie de dire « S'il vous plaît, mettez-vous d'accord, il y a une présidentielle dans 14 mois. C'est pas beaucoup, c'est demain, 14 mois à l'échelle d'une vie, c'est rien. »
Je suis pas d'accord, 14 mois, c'est très très long pour l'économie.
Ce qu'on a envie de dire, mettez-vous d'accord, pour l'économie, justement. Et pour qu'on ne tombe pas sur le chaos, pardon, mais le coût aujourd'hui de 2022 de Liz Truss qui était un mois au pouvoir, aujourd'hui encore les Anglais le payent très cher.
C'est ça la question.
Ce qui ressort de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des mesures urgentes à prendre pour les entreprises qui ont besoin d'avoir un cap. Les chefs d'entreprise aujourd'hui qui veulent investir à plusieurs années, ils savent pas si l'année prochaine
ils sont dans le brouillard le plus total,
surtaxés, sous-taxés, s'il y aura des nouvelles normes, si on en arrivera. Donc il faut pareil pour les Français qui attendent du pouvoir d'achat, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui veulent plus de sécurité, tout le monde attend. Et c'est pas en associant des contraires qu'on va arriver à des réformes profondes. Or aujourd'hui la France elle a besoin de vraies réformes. Elles valent très mal, très très mal.
Et le chaos, là elle a besoin d'un budget, pardonnez-moi.
Je termine et je vous écouterai avec beaucoup de, avec grand plaisir et beaucoup de délices. Mais comme toujours. Mais pour ça, il faut des réformes profondes.
Il faut donc
une majorité. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de réformes profondes avec des gens qui veulent la taxe Zuckman. Dès qu'ils se réveillent, ils veulent taxer. D'autres qui veulent moins de taxes. Certains qui veulent des normes écologiques complètement aberrantes. Et d'autres qui veulent enlever les normes. Tout ça n'arrivera pas. Et donc, il faut une majorité pour avoir un cap. Oui. Un cap qui donne aux entreprises la possibilité d'investir, aux Français de savoir s'ils vont s'acheter une maison ou pas, s'ils vont mettre l'enfant dans l'école privée ou pas.
Mais la majorité, il n'y en a pas.
Aujourd'hui, les entreprises,
elles ne regardent pas les politiques partisanes. Elles regardent la clarté des décisions.
Qui prend la décision?
On a besoin de sortir de ce brouillard nocturne, parce qu'on n'est pas que dans un brouillard, on est en plus dans la nuit, on rajoute cette contrainte supplémentaire, il y a des animaux qui traversent, qui sont des sauvages. À un moment, on a envie de se dire, s'il vous plaît, vraiment. Et c'est vraiment impossible de vous mettre d'accord.
Complètement.
Mais oui,
parce que nous n'avons pas la même vision.
Mais vous parlez de pouvoir d'achat. Monsieur Lecornu, il a proposé, par exemple, de remettre la prime Macron. Savez-vous combien, rien que dans mon secteur, ont été distribués de prime Macron? 750 millions d'euros. C'est des vraies mesures de pouvoir d'achat.
Est-ce qu'on peut patienter?
Laurent Jacobelli.
Si vous voulez aider nos entreprises, il y a plusieurs manières. Certains disent qu'il faut ouvrir les frontières au marché mondial, sans contrôle, ça aide à exporter. Et d'autres, comme nous, qui disent qu'il faut protéger nos entreprises et contrôler ce qu'il arrive. Attendez, je termine. C'est deux visions complètement opposées. Chacun a le droit de défendre la sienne. Attendez, on ne peut pas trouver une solution médiane. C'est pas possible.
Qu'est-ce que vous proposez, justement,
si jamais vous voulez augmenter les impôts pour certains parce qu'il faut maintenir le système social, maintenir un État devenu complètement
obèse. Si vous voulez me dire que donc, 57% écoutez, des dépenses c'est trop écoutez, dans le social,
écoutez,
oui.
Écoutez, quand
mais
on
toute
vous
la gauche dit de la merde.
Vous demandez aux autres de s'entendre, vous êtes incapable de les écouter.
Non, mais donnez des exemples. Je suis pragmatique, j'ai besoin d'exemples.
Par contre,
illustrez.
Non, mais je veux bien parler, mais si vous parlez dessus, moi.
Oui, alors, allez-y, Laurent Jacobelli.
Je vais terminer mon raisonnement. C'est plusieurs visions de la France différentes. Et ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a mis des gens tous autour de la table en disant débrouillez-vous. Ça a arrivé à une bouillie molle, tiède, fadasse, où on ne prend plus aucune mesure, où on accepte tout et n'importe quoi, et au final, tous les voyants sont au rouge.
Mais
parce
pour
qu'aucune
autant,
décision importante
Laurent
n'a été prise.
Jacobelli, est-ce que les entrepreneurs, est-ce que les marchés seraient rassurés par une dissolution? Au contraire, ça crée de l'instabilité.
L'instabilité, c'est
de
aujourd'hui.
Et ça repousse un peu plus. L'élaboration d'un budget.
Je vais vous dire, si demain il y a une majorité à l'Assemblée nationale. S'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, le programme sera clair. Et les industriels seront rassurés. Aujourd'hui, le problème, c'est le manque de clarté parce qu'on ne sait pas qui nous gouverne et on ne sait pas dans quel sens ça va.
Édric Chevrillon.
Non, voilà, ce que j'ai dit, c'est les marchés, ils ont besoin de clarification, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, ils ont besoin d'un budget, ils ont besoin de décisions, ils ont besoin de regarder un tout petit peu où va la France. C'est sûr que pour l'instant, on ne voit absolument pas où va la France. On est dans la stabilité la plus complète. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit, les taux d'intérêt, ils montent.
On devient
vraiment la voiture balai de l'Union européenne. On est le dernier de la classe. Donc, de ce point de vue-là, quelque part, vous avez raison, il n'en demeure pas moins que si on rajoute de l'instabilité à l'instabilité, je ne suis pas sûre non plus que ça soit la solution pour les marchés financiers.
Oui, mais je ne suis pas sûre que la dissolution soit facteur d'instabilité.
Bah, la dissolution,
c'est le résultat de l'instabilité.
Victor, demandez aux agences, vous allez voir dans quelques jours les agences, quand elles vont se réunir les deux.
En octobre, quand on allait voir Moody's,
on ne peut pas dire qu'on ne prend pas d'acte politique simplement parce que les marchés
vont se réunir. Je pense que la dissolution, elle va entraîner d'aller voir Moody's. La réaction forte des deux agences.
Mais c'est possible. La dégradation, c'est Fitch, la première agence qui a dégradé la France.
Ça n'a pas attendu.
Mais la dégradation de Fitch, elle n'est pas le fruit de la solution. Elle est le fruit précisément d'une situation qui dure. Donc,
s'il faut bouger les choses,
ça ne va pas rassurer les deux autres.
Mais c'est quoi bouger les choses, il faut le faire. Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que quand il n'y a pas de cap clair, quand il n'y a pas, en fait, la France, elle devient un actif.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité.
La France, elle devient un actif spéculatif.
Qui va fixer
ce cap? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'un actif spéculatif? Ça veut dire que les marchés.
Stéphane, on n'est pas encore un actif spéculatif.
Moins deux aujourd'hui sur les marchés.
Sur la conclusion.
Moins deux.
Non, ça, on l'a fini à moins 36. Si
alors,
vous voulez des chiffres précis.
Attention. Ne soyons pas trop techniques, parce que moi, après, je vous perds.
Non, mais c'est pas si.
Mais Laurent Jacobelli, attendez, j'aimerais bien qu'on voit sur cette option de la dissolution. Admettons qu'il y ait des législatives anticipées. Effectivement, le Rassemblement national, et on comprend bien pourquoi vous souhaitez cette option, vous arrivez en première position avec 31 à 33% des voix, suivi du PS, des écolos.
Premier tour,
exactement. Et du Parti communiste à 16,5%. Puis, alors, je ne sais pas si on peut le voir peut-être ce sondage. En tout cas, vous êtes loin devant et loin devant le camp Ensemble, 13,5 à 15%. Vous auriez une majorité. Est-ce que vous êtes sûr d'obtenir une majorité absolue?
Sûr, c'est quand même compliqué d'anticiper sur le vote des électeurs.
En tout cas, ça vous semble atteignable?
En tout cas, c'est tout à fait atteignable selon nous pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que le Front républicain, entre grands guillemets, qu'on nous a vendu la dernière fois, en tout cas qu'on a essayé de vendre aux Français, ne marchera pas une deuxième fois. C'est-à-dire que quand on a un électeur du centre et de droite, et qu'au deuxième tour, on a le choix entre un député Rassemblement national ou un député d'extrême-gauche antisémite, clairement, le choix sera vite fait. Donc, je crois que cela ne fonctionnera
pas dans toutes les circonscriptions de la fois dernière.
Je crois quand même qu'aujourd'hui la France insoumise fait peur à tout le monde, à juste titre d'ailleurs, et fait peur à la République. Deuxièmement, nous sommes le seul parti à ne jamais avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et les Français n'en peuvent plus d'Emmanuel Macron et de sa politique. Nous sommes donc la force d'alternance la plus crédible pour s'opposer à lui et la plus structurée.
Et vous allez aller les chercher où alors, ces voix qui vous manquent pour obtenir?
Mais nous allons aller les chercher d'abord dans notre électorat, dans le vote de tous ces Français qui aujourd'hui nous donnent raison, même s'ils ne votent pas encore pour nous, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le laxisme, sur le pouvoir d'achat. Et ailleurs, moi, je le dis dans ma circonscription souvent, je lance un appel aux électeurs LR. Ne le faites plus confiance à vos dirigeants qui sont prêts à vous vendre pour un plat de lentilles et aller travailler avec Emmanuel Macron alors qu'il se présente comme étant dans l'opposition. Et on le voit bien, au gouvernement, il ne change rien la vie des Français.
Mais du coup, c'est quoi une majorité. Monsieur Jacobelli, si vous pouvez me citer, s'il vous plaît, trois mesures pour le pouvoir d'achat et trois mesures pour les entreprises. Mais concrètement.
C'est un quiz?
Non, c'est pas un
quiz. Non, mais alors pour le coup, c'est des questions concrètes.
Il n'y a pas de questions pièges dans ce qu'elle a connu.
Baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies. Deuxièmement, dire à un patron qui va augmenter ses salariés de 10% que ces 10% seront exonérés de charges patronales et pour les familles, restituer la part entière pour le deuxième enfant.
Mais vous finissez
déjà.
Mais
ça existe déjà. Sur la baisse de la TVA, ça coûte très très cher.
Non, mais sur les 10% des salaires,
on le financera autrement. Je vais vous expliquer. Mais vous m'avez demandé trois mesures.
Je vais vous répondre parce que dans la vraie vie, ce que vous citez, notamment sur les 10% sur le salaire, ça existe déjà. Ça s'appelle la prime Macron.
Absolument. C'est pas exonéré de charges patronales. C'est pas 10% et c'est pas intégré au salaire.
Dans le nouveau dispositif que monsieur.
C'est pas intégré au salaire et donc au calcul de retraite. Donc vous voyez, c'est faux ce que vous dites factuellement.
Dans le nouveau dispositif que monsieur Lecornu proposait, justement, c'est. Mais prenons un salaire de.
C'est à la poubelle.
Prenons un salaire de 1 500 euros net. Vous pouvez donner 3 000 euros. Ça fait 20% d'augmentation de pouvoir d'achat. C'est au-delà de ce que vous proposez.
Je ne sais pas si c'est le sujet. Ce que nous dit le RN, à travers vous, monsieur, c'est il nous faut une dissolution parce que ça va nous faire augmenter petit à petit. On va avoir la majorité absolue.
Il faut une majorité.
Que le RN est une majorité absolue s'il y a une dissolution dans deux jours, c'est pas ce que les sondages disent aujourd'hui. Donc moi, personnellement, j'en doute. En revanche, ce que vous avez dit qui est juste, c'est que ce Parlement, il représente plusieurs visions de la France. Et ce dont on a tous été privés en 2022, c'est de voir ces visions de la France. C'est une élection qui a été enjambée par Emmanuel Macron et qui nous a montré à nous tous un duel comme si on ne pouvait pas le dépasser, qui était Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et il n'y a rien d'autre, et il n'y a pas d'autre copie qu'on peut déposer. Aujourd'hui, moi, en tant qu'électrice, ce que j'attends, c'est de voir la copie des différents partis politiques sur l'économie, sur le travail, sur le budget, sur l'écologie, sur l'école, on va rappeler aussi l'état de nos services publics, puisqu'on le voit, nos services publics sont en lambeaux. Le déficit est bien supérieur. Je vais juste terminer ma phrase. Le déficit est bien supérieur à celui qui est affiché, puisque nos services publics sont en lambeaux. L'intelligence artificielle supprime 20% des emplois aujourd'hui. Ça pourrait être 80% d'ici à 3 ans. Donc en 2027, on a besoin d'une élection présidentielle digne de ce nom pour notre pays, la France, qui est la fille de la politique. Si on enjambe encore, si on rate encore cette échéance, alors là, ce sera un chaos terrible. Alors, si on veut se préparer,
en attendant, parce que là, il y a des échéances un peu plus proches. Là, c'est 2027, mais
si
là,
on veut, voilà, justement, si on veut se préparer, si on veut se préparer à cette élection présidentielle collectivement, il faut arrêter l'instabilité politique tous les 4 matins, parce que les politiques, quand ils sont en train de préparer une dissolution, un changement, un premier ministre qui tombe, un autre premier ministre qui est nommé, etc., ils sont pas en train de préparer leur copie, ils sont pas en train de préparer une vision de la France et un projet. Il nous faut un cap, un accord de gouvernement, un accord de non-censure entre les partis qui nous permet de tenir cette année qui nous reste avant la présidentielle. On pourra ouvrir ce grand débat.
Flora Gbali, oui, mais très bien, mais c'est utopiste, puisque justement, ça fait des semaines qu'on essaye d'avoir un accord de non-censure.
Parce qu'on essaye mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le budget de M. Bayrou, il n'était aimé par personne, et que M. Lecornu, il a renommé les mêmes qui venaient de tomber. Donc non,
c'est pas possible. Guillaume Tabar.
C'est une illusion de croire qu'il puisse y avoir une sorte de calendrier électoral vierge. On dit voilà, il y a l'élection présidentielle, donnons-nous le temps de préparer tout ça.
Ça serait bien.
La vie citoyenne, la vie électorale fait que il y a des scrutins qui se succèdent. Il y aura toujours des municipales, il y aura toujours d'autres élections à préparer. Il y aura toujours de l'actualité. Vous avez raison de dire que la campagne de 2022 était en partie escamotée parce que il y a eu la guerre en Ukraine et que Emmanuel Macron a surfé sur la guerre en Ukraine, mais on peut dire donc lors de la prochaine présidentielle, c'est ni vous ni moi qui serons maîtres de dire on interdit toute guerre pendant 2 ans pour être sûr qu'une guerre ne vienne pas polluer les débats politiques. Donc, il faut bien
non
que
mais
les
si on a un premier ministre toutes les 48 heures d'ici là, ça va pas nous aider.
Je termine une phrase si vous le permettez. Il faut bien que tous les candidats fassent avec le contexte tel qu'il est. Et après tout, dans une élection, c'est quand même toujours les électeurs qu'on choisit. Je veux bien qu'on dise ce qu'on veut sur l'élection 2022, que le débat n'a pas lieu, mais ce sont les électeurs français qui ont choisi, comme en 2017, de mettre au second tour Emmanuel Macron, qu'ils ont mis en première position, et Marine Le Pen, qu'ils ont mis en deuxième position. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont eu toute possibilité aussi de se faire entendre. Donc,
en parlant des élections,
les candidats présidentiels, ils auront les mêmes armes que tout le monde.
S'ils n'ont pas convaincu, c'est leur problème.
Et s'ils n'arrivent pas à convaincre, effectivement, ce sera leur faute à eux, et pas la faute de l'actualité internationale, pas la faute de la conjoncture économique.
J'aimerais qu'on ait l'avis de Daniel Cohn-Bendit, qui nous a rejoint. Il est à distance, mais il est bien là. Bonsoir à vous, Daniel Cohn-Bendit. Alors, il y a 5 scénarios maintenant sur la table. On va les voir ensemble. Sébastien Lecornu, ça c'est le premier scénario, de nouveau nommé à Matignon. Un nouveau Premier ministre qui est nommé hors Sébastien Lecornu. Une dissolution de l'Assemblée nationale pour le président. Une démission d'Emmanuel Macron ou une destitution d'Emmanuel Macron par le Parlement. Quel scénario, selon vous, est le plus plausible ?
Aucun.
Ah.
Aucun. Merci d'être venu.
Non, écoutez, disons, aucun ne me plaît. J'en sais rien, ce qui est possible dans la France d'aujourd'hui, dans le brouillard total, l'incapacité des forces politiques, qu'est-ce qui est plausible ou n'est pas plausible. Ce qui est souhaitable pour moi, c'est que le Parlement essaye de trouver une majorité. Les forces politiques, on parle non pas le président nomme un premier ministre, mais on dit le Parlement, 3 semaines, négocie. Alors, ou c'est une majorité droite-droite, extrême-droite, ou c'est une majorité le centre avec la gauche réformiste, eh bien, 2-3 semaines, vous négociez, comme dans un pays démocratique normal, ce que font les Allemands, ce que font les Hollandais, c'est le Parlement qui sert sa majorité. Bon, et je crois que c'est possible, pour un an, pour un an jusqu'au présidentiel. Et les débats que le monsieur du Rassemblement National, la clarté, vous ne l'aurez pas par une dissolution, parce qu'une dissolution, vous avez une élection qui vient très vite, donc il n'y aura pas de clarté. Et une démission du président, vous n'aurez pas de clarté. Donc, Daniel, moi, je suis...
Pardon. Non, pardon, je vous appelais Dany, mais je voulais vous appeler Daniel, pardon. Daniel oui. Cohn-Bendit.
Non, Dany, comme vous voulez.
Ah, bah, c'est gentil, rouge. Merci. Non, mais je reprends un peu les interrogations, là, en plateau. Vous dites, voilà, l'idéal, ce serait que les partis s'entendent entre eux à l'Assemblée nationale. Mais on a déjà testé ça. Ça ne marche
non.
pas. Est-ce que
non.
nos représentants politiques non. sont capables de le faire réellement?
Madame, vous n'avez pas testé. Vous avez testé quelqu'un nommé par le président qui cherche une majorité. Nous, on ne nomme personne et on donne la capacité au Parlement où vous aurez une majorité qui ira vers la droite et l'extrême droite ou vers le centre et la gauche réformiste. On leur donne 2 ou 3 semaines et c'est possible. Pourquoi ? Parce que ça les responsabilise. Ils sont obligés de discuter pour faire une majorité. Si les Républicains veulent s'allier, par exemple, avec le Rassemblement National, ils devront ou manger leur chapeau sur les retraites, ou le Rassemblement National mange son chapeau sur les retraites. Ou le centre et le Parti Socialiste reprennent l'idée de la CFDT, par exemple, sur la pénibilité, pour calmer le jeu sur les retraites, et le centre trouve une taxe de solidarité qui a été introduit dans plusieurs pays, qui calmerait le jeu vers la gauche. Je crois que c'est possible, mais ce n'est pas possible si c'est le président de la République qui impose sa personnalité.
Guillaume, ça va. Vous partagez différence. L'optimisme de Daniel Cohn-Bendit ?
Non, je pense que dans le discours sur le compromis, il y a un vice de forme. Parce que les mêmes qui disent il faut que toutes les forces politiques travaillent entre elles, trouvent des compromis, etc., ce sont les mêmes qui, a priori, exclut deux forces politiques, le Rassemblement National et LFI. Deux forces qui, à la présidentielle, ont réuni à L2 à peu près 45% des électeurs au premier tour et qui, au sein de l'Assemblée, à L2, font environ 210 députés, donc 40% des sièges. Donc, où on dit il faut qu'on ait des majorités à géométrie variable, il faut qu'on accepte des majorités sur tel thème ou sur tel autre, voilà. Mais à ce moment-là, il faut dire, on fait ça avec tout le monde, bon. Ou on est dans
Monsieur
une logique
Dabat,
de dire, on accepte... Attendez, je termine juste. Ou on a dit, on accepte juste de travailler avec un bloc central, et à ce moment-là, il ne faut pas parler de compromis. Beaucoup de ceux qui parlent du compromis aussi citent en exemple 45. Mais précisément, 45, c'est quoi? C'est De Gaulle qui accepte de travailler avec les communistes.
Bah oui.
Les communistes, c'est quand
non,
même
monsieur,
pas rien.
Monsieur Tabar,
le sort de la guerre, c'est le parti stalinien.
Monsieur Tabar,
oui.
Dans une démocratie parlementaire, le compromis ne se fait pas avec tout le monde. Non, c'est un compromis pour trouver une majorité. Et là où il y a majorité, il y a opposition. Attendez, il y a opposition et minorité. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, les socialistes, les sociodémocrates allemands ont fait un compromis avec la CDU ou CSU. Ils ont exclu les Verts, ils ont exclu l'extrême droite et ils ont une majorité. Compromis ne veut pas dire compromis avec tout le monde, mais un compromis doit trouver une majorité.
Parce que là, ils ont trouvé une majorité, mais il y a des cas où on ne peut pas trouver une majorité.
Non, mais
il y a d'autres pays européens, on a parlé des Pays-Bas, où des partis ont fait des alliances qui, en France, seraient interdites.
Et pardon, je,
Monsieur Tabar, vous dites qu'il y a 40%.
Attendez, pas tout
vous, vous dites que LFI et le RN accumulés font 40% de l'Assemblée à peu près. Ça veut bien dire qu'il y a 60% qui ne sont dans aucun de ces deux partis. Ça veut bien dire qu'il y a un bloc républicain, excusez-moi d'employer ce terme ringard. Il y a un bloc républicain qui est une majorité. Non, je crois pas. Je crois que la culture du compromis, comme la propose Daniel Cohn-Bendit, c'est de la maturité politique.
Et si Sébastien Lecornu a fait. Je me refuse absolument de discuter avec lui. Ça,
dire qu'il y a des partis qui sont des partenaires, des partis qui sont fréquentables et d'autres infréquentables. Et aujourd'hui, si le RN et LFI font 40% à deux, c'est bien la preuve que le reste fait 60%. Et que donc, il y a des compromis à trouver, au moins jusqu'à la présidentielle.
Entre LR et les écologistes.
Sans
LFI. Trouver un compromis à LR
et sans le RN.
Si je peux me permettre. La meilleure preuve, c'est que pour abroger la réforme des retraites, là. Comme par hasard, la gauche trouve tout à fait acceptable les voix du RN pour ça. Et lorsque la gauche répète que la taxe Zucman a été votée à l'Assemblée nationale, ce qui était vrai en première lecture, c'est parce que le Rassemblement national
s'est abstenu.
Avait voté pour en commission.
Mais parce que ce qui manque, c'est une méthodologie du compromis.
Dans un cas, les voix sont acceptables, dans l'autre cas,
vous avez, ça, vous avez entièrement raison. Et ce qui manque à l'Assemblée aujourd'hui et aux parlementaires, c'est une méthodologie du compromis. C'est que Emmanuel Macron a explosé le clivage droite-gauche il y a presque 10 ans. Et depuis, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est exactement ce qu'explique Daniel Cohn-Bendit, ça marche dans certains pays, dans la plupart des pays d'ailleurs, c'est une méthodologie du compromis, une méthodologie du dialogue, une éthique du dialogue et de la conversation. Et aujourd'hui, excusez-moi, je pense qu'il y a, enfin, il y a 90% des Français, d'après le sondage que je vous ai cité, qui déplore le fait qu'il n'y en ait pas.
Daniel Cohn-Bendit souhaite réagir.
Oui, non, encore une fois, le jeune homme là, dont je ne connais pas le nom,
Victor
dit trouver... trouver des compromis avec les écologistes. Oui. On verra peut-être que le bloc central et les socialistes, ça suffit. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ira le curseur. Je crois que M. Tabar fait une erreur. Quand on dit compromis, ce n'est pas avec tout le monde.
Ça fait 5 gouvernements
pour les écologistes. Une majorité. Attendez. J'ai pas fait fini une phrase que déjà le monsieur il ouvre sa bouche, c'est quand même très désagréable.
Vous êtes en train de faire les gestes des cinq derniers gouvernements comme si on l'avait pas fait.
Attendez, c'est de trouver un bloc majoritaire qui décide ensemble de pas chercher des minorités de gens en dehors de ce bloc. C'est ça. Les sociaux-démocrates allemands et les chrétiens-démocrates allemands ont décidé de décider ensemble et de ne pas chercher des majorités hors de leur cohésion.
Mais monsieur Cohn-Bendit,
Fonctionne.
Oui, mais peut-être en Allemagne. En France, ça vous aura peut-être échappé, mais ça fait 2 ans. Que Emmanuel Macron et ses équipes essayent de faire ça et que ça ne marche pas, que ce bloc central que vous appelez de vos voeux, cette espèce d'alliance n'aboutit à rien. Elle aboutit à des budgets qui sont refusés par tout le monde parce qu'une fois encore, ils ne remplissent aucun des objectifs. Ils grèvent la dette, ils grèvent le pouvoir d'achat des Français, mais il n'y a aucune solution derrière. En fait, pourquoi on essaye de réinventer les choses? Notre Constitution, elle est quand même assez exceptionnelle. La 5e République, elle fonctionne. En tout cas, elle fonctionnait bien avant Emmanuel Macron.
Elle fonctionne pas.
Notre République, elle dit très clairement, quand il n'y a plus de majorité, quand il n'y a plus la possibilité d'avancer, on va aux élections. Voilà. J'entendais tout à l'heure qu'on nous disait qu'il y avait des partis fréquentables, pas fréquentables. Les seuls qui peuvent décider, ce sont les électeurs. Si eux décident qu'un parti est majoritaire, eh bien c'est
mais
eux qui ont...
Mais vous n'êtes pas majoritaire, M. Jacobelli. Vous n'êtes pas majoritaire, M. Jacobelli.
Mais et justement, un peu.
C'est le propre de la démocratie.
C'est pas à vous de décider qui
est
républicain.
Mais vous n'êtes pas majoritaire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'état des lieux. Moi, j'ai pas de parti.
Vous êtes vert.
La différence entre ce qu'affirme le RN et la réalité, c'est la démocratie. En démocratie, choses, elles avancent lentement. Et donc, ce qu'appelle M. Cohn-Bendit de ses voeux, à savoir une culture du compromis, ça ne se fait pas en un jour. C'est pas possible que, du jour au lendemain, on sorte de la 5e République. On sort d'une République qui est la plus longue de l'histoire des républiques. Et du jour au lendemain, vous voulez qu'on ait tout changé ou alors ça va pas. Excusez-moi, Sébastien Lecornu, il a fait un truc exceptionnel avant de partir. Il a renoncé au 49-3. Si ce n'est pas une révolution parlementaire et institutionnelle, vous m'expliquez. après ce que c'est.
On va vous expliquer.
On parle de changement institutionnel. Le changement, il est en train d'arriver. Et vous allez voir que le prochain Premier ministre sera contraint de renoncer lui aussi au 49-3. Donc on aura changé la culture parlementaire.
Pardon, mais alors, l'idée de renoncer à gouverner avec 49-3, si, c'est assez révolutionnaire. C'est une rupture.
Non, mais parce
qu'il y a donner les clés au Parlement pour qu'il trouve justement des compromis.
L'article 47, l'article 40, il y a plein d'articles.
C'est du marketing, c'est
oui.
Donc vous dites qu'il y aura d'autres méthodes.
Parce qu'il y a le 49-3 qui bloque la réforme des retraites, et ce soir vous dites c'est du marketing, c'est rien.
Parce qu'on n'entend pas. Là-dessus, sur le 49-3, vous êtes d'accord que c'est une rupture,
Bruno Gelli? C'est quand même un élément important. C'est une arme parlementaire décisive dans la Ve République. Y renoncer, d'ailleurs, c'est quelque part,
dangereux,
à mon avis, mettre en difficulté bien des majorités. Donc le fait que Sébastien Lecornu renonce à ça, que pendant des mois et des mois, les Insoumis, la gauche, le RN ont protesté parce que Madame Borne a utilisé le 49-3 à 28 reprises pour passer ses budgets, passer ses retraites. Je suis désolé, Victor, c'est la vérité.
Elle avait une majorité.
Franchement, dire balayer ça en disant
ne pouvait pas utiliser le 49-3.
C'est n'importe quoi.
Vous pouvez pas utiliser. J'essaie juste de comprendre une chose. Vous dites qu'il n'y a pas de compromis possible.
Non.
Lorsque la nouvelle Assemblée a été élue, pour que les Français comprennent bien, à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle les élections du bureau et des 8 commissions permanentes. Moi, j'ai été très choqué que, par exemple, le RN, vous n'aviez aucune commission, rien, aucune vice-présence. Néanmoins, je note, contrairement à ce que vous soutenez...
Ça a été changé depuis.
Non seulement ça a été changé, mais vous avez réussi à vous mettre d'accord. Et je note quoi? Je note que vous avez 2 vice-présidents aujourd'hui. Et c'est tant mieux, et c'est normal, c'est la démocratie. Non, c'est pas, c'est des
votes.
Non, mais d'accord. Vous avez 2 personnes qui
figurent.
Et ensuite, les commissions.
D'accord. Moi, je suis parlementaire. C'est le règlement. Du règlement avant.
D'accord. Et sur les commissions, c'est des votes.
Mais c'est pareil.
C'est le règlement, c'est des votes.
Et oui, c'est le règlement aussi qui dit.
Donc vous avez réussi à vous mettre d'accord. C'est en proportion.
Non, mais sur des postes.
Non, vous avez quand même réussi à vous mettre d'accord à un moment pour pouvoir vous dire, on va être.
Visiblement, c'est pas le bon exemple puisque c'est la règle, c'est ça.
Il y a un système de points qui permet de calculer des
résultats. C'est pourquoi il y a un an.
Parce qu'il y a une fraude.
Mais pas du tout. Vous êtes en train de mentir. C'est pas bien ce que vous faites.
Alors attendez.
Si cette règle est appliquée, pourquoi vous n'aviez rien il y a un an?
Il a raison.
Mais attendez.
Non, mais pardonnez-moi.
Mais c'est pas bien.
Alors attendez.
Le 49-3, c'est faux. Ça, c'est faux.
Est-ce que je peux en caser une, s'il vous plaît? Guillaume Tabar.
C'est pas bien.
Guillaume Tabar.
Obligé, je connais la constitution.
Non. Victor Hérault, s'il vous plaît. Quelle est la règle? Expliquez-nous.
Il y a une tradition à l'Assemblée que les groupes se mettent d'accord
tradition
pour présenter une sorte de liste commune qui permette à ce que l'ensemble des groupes soit représenté. Ça s'est toujours fait. En 2022, c'était le cas, puisque avec un groupe qui n'avait à l'époque que 89 députés, le RN avait déjà eu 2 vice-présidences. Donc, et avec même les mêmes groupes actuels. Donc, les mêmes qu'aujourd'hui n'ont pas voulu de ça, en 2022, avaient accepté que toutes les formations soient représentées, vice-présidence, questure et secrétaire. Bon. En 2024, à la suite des législatives et du Front républicain constitué par les macronistes et la gauche,
zéro RN.
Cet arc-là a décidé que de rompre cette tradition. Donc c'était une vraie rupture voulue par la gauche et acceptée par les macronistes, plus des bisbilles internes entre eux. Bon. Et là, Yael Braun-Pivet, en tant que président de l'Assemblée, s'est battu pour que l'on revienne à la tradition qui voulait que ça. Bon.
Alors,
la droite et les macronistes étaient d'accord pour rester.
Mais il y a l'issue d'un accord entre les macronistes, LR et le Rassemblement National, qui a permis au Rassemblement National d'avoir ses 2 vice-présidentes. Et ça, c'était effectivement un bulletin commun, qui a été d'ailleurs négocié en parallèle de toutes les commissions, parce que dans toutes les commissions, il y a eu un candidat commun pour LR, RN, macroniste. Et parallèlement, les forces qui ont fondé le Nouveau Front Populaire ont montré leur capacité à s'entendre pas plus tard que la semaine dernière, puisque justement, nous avons eu un même bulletin et que nous avons présenté les mêmes candidats dans chacune des commissions.
Qui ont été élus par les députés RN.
On a évoqué...
mais non, je suis pas sûr que ce débat soit pas
oui, c'est là en rendant des choses non, un peu techniques.
Non, mais attendez, justement, parce que là, moi, j'essaye. Désolé, j'arrive en plateau là, mais j'essaye juste. Je sens qu'il y a des discussions sur des choses très techniques. Je suis pas sûr que les gens comprennent, mais sur qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et quels sont les rapports de force et est-ce qu'il y a des accords possibles actuellement. Si vous regardez la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'accord? Un accord RN, LR, macroniste et un accord des forces qui ont fondé le Nouveau Front Populaire. Cet accord RN, LR, macroniste, et je m'en réjouis, visiblement, explose en plein vol, puisque quand vous avez un Premier ministre qui nomme des gens de LR, des gens des macronistes, les deux font la gueule le soir, parce que c'est pas seulement l'expression, et le lendemain des
Pardon, s'il vous plaît.
Si, et la semaine dernière, le Rassemblement National expliquait qu'il n'était pas sûr de censurer dès le premier, de censurer tout de suite. Là, il était prêt à censurer, mais il n'y a même pas eu besoin, parce que le Cornu s'est lui-même auto-censuré, parce que son propre gouvernement, en fait, ne tenait pas.
J'aimerais bien qu'on vienne aux options, s'il vous plaît,
les options,
sur la table.
Les options, moi, je pense
alors,
que...
Alors, attendez, je vous donne la parole, mais juste bureau. Un instant.
Puisqu'on parlait du bureau, j'aimerais juste dire que le bureau a une première décision à prendre très importante ce mercredi, parce qu'il va étudier la motion de destitution. Et notamment les vice-présidents du RN, qui disent que ce serait peut-être une décision sage de la part d'Emmanuel Macron de démissionner parce qu'il est le point de blocage du pays. Ils auront face à eux une motion de destitution, ils devront décider. Est-ce qu'ils la bloquent comme Marine Le Pen a fait l'année dernière?
C'est pas pareil.
Ou est-ce que cette fois-ci,
démission
il la
laisse passer? C'est
pareil.
Alors attendez, posez la question directement à Laurent Jacobelli.
Est-ce qu'il voterait cette motion de destitution? Je pense que c'est une vraie question qui est posée, qui est politique et qui est posée au bureau, qui a été lu la semaine dernière sur les voix du Macron.
Parce que, in fine, c'est vrai que vous souhaitez, la France Insoumise et le RN, vous souhaitez un peu la même chose. Vous souhaitez le départ d'Emmanuel Macron.
Alors, mais pas de la même manière. Nous, nous respectons la 5e
La destitution, c'est dans la 5e République, c'est dans la Constitution.
Emmanuel Macron a été élu démocratiquement. Il est le seul à pouvoir décider de partir. Ce que vous faites croire aux Français, mais vous êtes très cynique parce que vous savez vous-même que c'est pas vrai, c'est que cette procédure de destitution peut arriver au bout. C'est faux. Tout le monde le sait.
Mais c'est
faux
pour qui décide qu'elle arrive pas au bout.
Je vais me permettre de terminer et je vous écouterai vous aussi avec
beaucoup d'attention. Expliquez aux Français pourquoi c'est pas possible.
Il faudrait que... C'est bon ? Je peux y aller ? Merci madame. Il faudrait que 2/3 des parlementaires votent la destitution. C'est pas gagné. Il faudrait déjà, d'abord, avant même ça, que le bureau de l'Assemblée nationale l'accepte. Si c'est pas gagné. Il faudrait ensuite des cas très précis, notamment que le président de la République vende les plans du nucléaire français aux Russes, ou des cas d'extrême trahison ou d'extrême gravité, qu'il soit atteint de folie. Bon, vous me direz, l'hypothèse peut peut-être exister, mais j'ai écouté Monsieur Rameau sur votre antenne qui déclarait ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, tout faire croire aux Français qu'avec cet outil marketing, on va destituer Emmanuel Macron, c'est leur mentir sciemment. Mais c'est ça l'extrême gauche.
Ça n'aboutira pas, Bruno Jeudy.
C'est la Constitution quand même, monsieur.
L'idée du départ Macron n'a jamais été aussi forte.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Parce que ça existe dans la Constitution.
Ça existe, mais on sait.
C'est vrai que ça paraît incroyable.
Mais ça n'arrivera pas, vous le savez comme moi.
Mais ça n'arrivera pas. Mais il ne faut pas mentir aux États-Unis.
Je vais vous dire quelque chose. Au 15 août, quand on a déposé une motion de censure, on a dit on va déposer une motion de censure sur Bayrou. On nous a expliqué au 15 août que ça n'arriverait pas, que ce serait un coup d'épée dans l'eau. Et Bayrou, il est tombé avant même qu'on puisse déposer notre motion de censure. Et voilà. Donc moi, j'ai beaucoup entendu. Et puis, on ne pouvait pas non plus gagner les élections l'année dernière. L'année dernière, on ne pouvait pas arriver en tête des élections. C'était au Rassemblement National. Et on a gagné les élections. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. On est arrivé en tête.
Excusez-moi.
Le groupe NFP est arrivé en tête avec 170 sièges.
J'ai pas dit qu'on avait la majorité absolue. Ce n'est pas ce que
je disais.
Alors, d'accord. OK. Donc, qui les a gagné
personne. Tout le monde a perdu.
Donc en fait, il y en a qui sont arrivés en tête et quand on et vous n'avez aucun sondage
l'année dernière.
Non mais écoutez, franchement, je suis désolée, mais c'est ridicule parce que pour les gens qui nous écoutent, pour eux, c'est très clair.
Vous êtes de quelle partie ?
On a passé. Vous avez passé un an.
C'est le reste du nouveau Front Populaire.
Je parle. Ben précisément, c'est pour ça. Mais ça, c'est un vrai sujet.
Mais vous avez vos amis, c'est fini.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, sous l'étiquette du nouveau Front Populaire, avec un programme de rupture qui était clair sur le fait que on tournait la page du macronisme avec un programme qui est radicalement différent et assumer radicalement différent
de celui du Rassemblement National.
On est arrivé en tête des élections et ça, personne ne peut le nier. Ça, c'était impossible à l'époque. Par ailleurs, pour la destitution, l'idée de la démission d'Emmanuel Macron et du départ d'Emmanuel Macron n'a jamais été si fort dans le pays. Vous avez presque 3/4 des Français qui le pensent, plus de 70% des Français, 72% qui disent qu'Emmanuel Macron doit partir. Vous avez des gens de LR. Rappelez-moi le Sénat. qui a la majorité au Sénat ? LR. Et vous avez de plus en plus de gens de LR qui disent que Macron doit partir.
Et donc combien de Français considèrent que LFI est un danger pour la France ?
Personne chez les Républicains ne parle de destitution.
Démission de destitution, c'est quand même pas tout à fait
normal. Non, mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ne vont pas la signer. Mais le jour où, en fait, ils sont confrontés à un vote et ils ont la pression populaire...
Pardon, mais je m'arrête un instant. Mais est-ce que réellement le départ d'Emmanuel Macron, Guillaume Tabar, est dans les tuyaux ou lui, jusque-là, il le répète. Il dit, moi, je terminerai mon mandat.
C'est une hypothèse politique qui est citée dans l'éventail des possibilités. Maintenant, dans l'hypothèse des choix du point de vue d'Emmanuel Macron, on sait bien, ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est effectivement de devoir quitter l'Élysée avant la fin de son mandat. Ensuite, ce qu'il veut éviter, c'est une dissolution. Bon, son rêve aurait été de pouvoir garder Sébastien Lecornu à Matignon. Ça n'est pas possible. Peut-être rêve-t-il encore à trouver un autre Premier ministre, quitte à chercher un Premier ministre de gauche pour tenter pour lever l'hypothèque. Bon, et s'il n'y arrive pas, il se résoudra à la dissolution et en dernière solution, à une démission.
Est-ce qu'il y aura une rupture ? Est-ce qu'il est possible qu'il nomme un Premier ministre du Rassemblement National ou pas du tout ?
Le Rassemblement National... En tout cas, pas dans la situation actuelle. En tout cas, s'il y a une dissolution,
Mais il manque une
hypothèse. Les résultats le décideront. Emmanuel Macron devra lire les résultats et en fonction des résultats, il aura une situation politique qui sera différente. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on voit bien que. Est-ce que le Rassemblement National est capable d'avoir la majorité absolue seule ? Ça paraît quand même compliqué, ils seront probablement en tête du premier tour et peut-être dans une meilleure position au second tour. Ça, c'est vrai. Mais pour l'instant, non.
Nous, on ne veut pas mentir aux Français. Si nous envoyons Jordan Bardella à Matignon, c'est pour entreprendre les réformes que les Français attendent que nous vous mettions en place. Et donc, si on n'a pas la majorité, on ne pourra pas le faire. Donc, on ne va pas mentir aux Français, on ne va pas juste pour le plaisir. Donc, pour le plaisir d'avoir une voiture
sur ce point-là, monsieur Jacobelli, d'ailleurs.
Si, tous. Attendez. Je dis, aujourd'hui, si après la dissolution, on peut avoir une majorité seule ou avec d'autres, bien sûr qu'on ira. Mais s'il n'y a pas, on ne le fera pas.
Mais il dit quoi, Sébastien Chenu, pardon ?
Je crois même qu'il citait le chiffre de 230. Si c'est 230, oui, on ne sera pas, bien sûr, il faudra rechercher d'éventuels alliés.
Une fois encore, nous n'avons jamais prétendu gouverner seul si on fait 230, 240, 250.
C'est la même chose d'accepter d'aller à Matignon et de rechercher des soutiens extérieurs.
Et que des alliés nous disent on est prêt à voter pour vous sur l'essentiel des mesures que vous proposez, évidemment qu'on y va. L'idée, c'est d'y aller avec une majorité pour nous soutenir.
Une élection, par principe, il y a un aléa, ça s'appelle le vote.
Bien sûr.
Et c'est quand même compliqué de dire aux Français nous, on veut une dissolution. Puis si jamais on n'a pas une majorité totale, bah tant pis, démerdez-vous, on n'ira pas à Matignon.
Personne ne dit ça.
Bah, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que nous, Jordan Bardella, je l'ai entendu dire très clairement qu'il n'ira à Matignon que s'il a une majorité absolue.
C'est normal.
On peut vérifier ses propos. Mais je vous ai aussi entendu semaine dernière dire au forum, petit 1, on veut une dissolution et si jamais c'est le même bazar, on veut la démission d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle juste qu'une chose, ça, c'est la sixième hypothèse qu'on n'a pas vue. C'est-à-dire que, effectivement, disons que jeudi, Emmanuel Macron provoque une dissolution de l'Assemblée, donc des élections de mémoire, on avait vu ça tout à l'heure, le 2 novembre, premier tour, et le 9 novembre, deuxième tour. Vous n'avez pas cette majorité, donc vous appelez à la démission.
Attendez, excusez-moi.
C'est une hypothèse.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de majorité.
C'est une hypothèse.
Mais écoutez, d'abord,
j'aimerais aller dans votre hypothèse. Donc, pour aller au bout, vous dites Emmanuel Macron doit démissionner. Mais d'accord. Mais vous vous retrouvez toujours avec la même assemblée, puisque pendant un an, vous ne pouvez pas
dissoudre. Ce que vous voulez dire, c'est que ça ne résoudrait pas le problème parce que le paysage politique reste.
Mais oui, il y aura un autre président avec pas de majorité à l'Assemblée.
Avec des raisonnements comme ça, on ne fait jamais rien. Aujourd'hui, c'est pas gouvernable. Donnons-nous la chance d'avoir une France gouvernable. Et j'espère que Mme Le Grin, ce coup-là, ne fera pas une alliance avec la Macronie pour se faire élire. Elle rappelait tout à l'heure que leur groupe était arrivé en tête avec les voix des candidats et d'Emmanuel Macron.
Qui n'ont pas voté pour
Emmanuel Macron, qu'elle a appelé à faire élire. Donc évidemment, vous êtes confortable parce que vous faites des alliances contre nature.
Si les électeurs avaient voulu que vous gagniez, ils vous auraient mis en
tête. L'une des options.
Il y a eu retrait candidat. Il y a eu patouillage, madame.
Il n'y a pas eu de retrait candidat RN. Donc ils avaient toujours le choix.
Merci Emmanuel.
Et donc les électeurs, ils ont trouvé que vous étiez encore pire que les
Macron. L'une des options. Pardonnez-moi, Sarah Le Grin. L'une des options.
Grâce à Emmanuel Macron. Merci,
s'il vous plaît. L'une des options, c'est qu'Emmanuel Macron Macron nomme un Premier ministre socialiste, c'est une possibilité. Est-ce que vous continuez à dire que vous censurez un gouvernement
Mais en fait, c'est pas vrai que c'est une possibilité. Après, on peut...
Vous n'y croyez pas du tout.
On peut parler d'hypothèses.
Mais ce que je veux dire, c'est
que... Est-ce que vous censurez Olivier Faure, par exemple ?
Là, vous avez trois gouvernements qui viennent de tomber.
D'accord, mais Olivier Faure, vous le censurez ou pas ?
Non, mais pour faire quoi ?
C'est simple, c'est vous, c'est non.
Non, mais attendez.
Laissez-la terminer.
Dans quel monde vous imaginez qu'Emmanuel Macron, là, va aller nommer, je ne sais pas qui d'ailleurs, Faure ou quelqu'un d'autre ?
Il envoie un message, il le nomme.
Si ce n'est pour faire la même politique que celle qu'il a demandé de faire à Barnier, à Bayrou, à Le Cornu, qui sont chacun tombés. Donc, il n'y aura pas plus de majorité, ça n'existe pas.
Et pourquoi vous voulez pas
répondre ? Après, je sais qu'il y en a qui ont envie de... Mais moi, je trouve ça...
Mais pourquoi
moi,
vous dites qu'Olivier Faure ferait la même politique que Michel Barnier,
Emmanuel Macron...
Olivier Faure, il était sur un plateau ce soir, il parlait d'un changement de cap. Non, et madame, Olivier Faure, il a dit à 20h qu'il voulait un changement de cap vers plus de justice sociale et fiscale.
Et il a dit, si Emmanuel Macron vous appelle pour la matinée, il faut y aller.
Pour l'instant, il faut qu'on se base peut-être sur la déclaration.
Donc ça va Je vais vous dire un truc. Soit il veut un changement de cap, c'est-à-dire, par exemple, appliquer le programme du Nouveau Front Populaire. Il ne sera pas nommé à Matignon. Je suis désolée de vous l'apprendre.
Donc vous êtes encore dans la logique, rien que le programme.
Soit il ne veut pas changer de cap, au sens par rapport à la Macronie, et il veut des discussions. Et on a appris qu'il avait discuté avec Gabriel Attal, et on apprend que, et on sent bien
positif,
qu'il s'éloigne du programme. Non, mais c'est son choix.
Mais vous cherchez le chaos, en fait.
Il peut être nommé, mais il ne sera pas, ce ne sera pas mon option politique, parce que moi, mes électeurs, ils m'ont confié, comme responsabilité, de porter le programme du Nouveau Front Populaire, et surtout ce qui signifie, c'est-à-dire la rupture avec Emmanuel.
Pardon, c'est paradoxal, Sarah Legrain, puisque on a appris qu'aujourd'hui, la France Insoumise demandait une réunion l'ensemble de la gauche. Vous souhaitez inviter le Parti Socialiste à discuter lors de cette réunion, mais ça sert à quoi si vous
êtes
en train de me dire, même dans le cas où il nomme un Premier ministre socialiste, alors j'ai pas compris, expliquez-moi.
Donc il y a un truc à trancher. Pour l'instant, personne n'est en capacité de comprendre si le Parti Socialiste, si Olivier Faure, il est capable de porter les idées du Nouveau Front Populaire. Moi, je commence à comprendre quand même, quand on se prend un vent sur la réunion de demain et qu'on apprend qu'il a discuté avec Gabriel Attal, les gens peuvent se faire une idée en disant, visiblement, il n'a pas l'air d'être trop sur le Nouveau Front Populaire, mais les gens ont besoin de savoir. Et cette question-là, elle est posée actuellement au Parti Socialiste.
Et là, parce que majorité
les communistes, les écologistes et Génération et les Insoumis discuteront demain à 9h du matin pour parler de toutes les options qui sont à la table. Donc, évidemment, pour parler de la destitution, parce qu'ils ont d'ailleurs signé déjà une motion ensemble.
Ça c'est un tiers de l'Assemblée, il faut préciser quand même. Toutes les forces que vous avez citées, c'est un tiers.
Je vous parle, d'accord, mais je ne suis pas en train de vous dire, moi, de parler de Matignon. Je suis en train de vous dire, parce que je ne crois pas un instant à cette option, Matignon. Je n'y crois pas. Je pense qu'Emmanuel Valls...
Parce que vous la voulez passer de « on a gagné les élections » à « la gauche à Matignon, c'est impossible ».
Attendez, vous avez suivi ce qui s'est passé depuis un an ou pas ?
Aucune élection, donc rien n'a changé. Vous me dites « j'ai gagné les élections, on est arrivé en tête ».
Il a raison.
Et vous me dites ensuite, c'est impossible que la gauche soit à Matignon.
Parce que Macron ne mettra. Non mais. Je redis. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
le mot hypothèse.
C'est une chose qu'on a apprise depuis un an. C'est qu'Emmanuel Macron ne met pas la coalition qui est arrivée en tête, qui n'a pas de majorité.
Admettons, il le fait.
On a compris que vous avez une détestation pour Emmanuel Macron, mais disons qu'il nomme Olivier Faure.
S'il le fait demain, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes 30% de l'Assemblée.
Non mais attendez.
Est-ce que pardonnez-moi.
Le programme du Nouveau Front Populaire, mais je suis désolée. Mais monsieur, vous venez de dire, il faut que vous le disiez devant les gens, il faut qu'ils entendent. Vous dites, admettons qu'Emmanuel Macron nommera le Nouveau Front Populaire.
Mais est-ce que c'est
Matignon demain ?
Alors pardon, Guillaume Tabar, est-ce que c'est une possibilité ?
Est-ce que vous parlez du Nouveau Front Populaire ?
Mais est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, un peu de discipline sur ce plateau ?
Est-ce que c'est du macronisme ?
Très dissipé ce soir tous. Guillaume Tabar, est-ce qu'il est possible ? Passionné, voilà, c'est joliment dit. Est-ce qu'il est possible réellement qu'Emmanuel Macron, là, au bout de 3-4 tentatives, maintenant, ils disent bon, ok, il est temps que je mène une politique de rupture, que je nomme quelqu'un de gauche à Matignon ? C'est vraiment sur la table ?
Il est d'autant plus possible qu'il le fasse. Je ne dis pas qu'il le souhaite, mais qu'il le fasse, oui. Il faut quand même dire qu'avant de nommer François Bayrou et même Michel Barnier, il avait consulté Bernard Cazeneuve, qui était quand même ancien Premier ministre de François Hollande, un ancien Premier ministre socialiste, donc il était prêt à étudier une solution de gauche. Solution de gauche qui, à l'évidence, ne convenait pas au Nouveau Front Populaire. Mais c'était quand même quelqu'un de gauche. Donc Emmanuel Macron, sur le papier, il peut étudier toutes les solutions. Si le bloc commun reste dans l'implosion que l'on voit aujourd'hui, vous rappeliez tout à l'heure la phrase d'Emmanuel Macron, je prendrai mes responsabilités. Il dit ça à la droite, c'est-à-dire si vraiment à la droite, vous voulez plus gouverner avec le bloc central, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs. Et voir ailleurs, ça veut dire à gauche. Je ne dis une fois encore, je pense qu'il ne le souhaite pas, je suis d'accord avec vous. Emmanuel Macron ne souhaite pas changer de politique, il ne souhaite pas forcément gouverner avec la gauche, mais Tout comme il était prêt, si le Rassemblement national avait une majorité même relative aux dernières législatives, à tester l'hypothèse Bardella-Matignon, il ne le souhaitait pas, mais je pense qu'il aurait été prêt à l'étudier. Il pourrait être prêt à étudier une solution de gauche.
Mais ça marcherait pas davantage. Mais... Parce que y aurait pas, je vois pas. Ce que vous appelez solution de gauche, c'est une personnalité de gauche pour essayer de trouver, en gros, un compromis avec effectivement mais l'ensemble des macronistes.
C'est le principe de la réalité qui vous oblige à trouver une majorité.
Je vous dis juste, la question, ça ne marchera pas plus que les précédents gouvernements. Ça ne marchera pas plus.
La question se poser sur l'hypothèse d'une nomination d'une personnalité de gauche par Emmanuel Macron, c'est la question des retraites. Le président de la République est-il prêt à lâcher quelque chose sur les retraites, hormis ce qu'il a fait via Sébastien Lecornu sur la pénibilité et l'amélioration de la retraite des femmes? Ça, c'est la question essentielle, parce que une personnalité de gauche modérée, fût-ce Bernard Cazeneuve, aurait pu se faire si c'était allé plus loin, mais Bernard Cazeneuve lui-même aurait cherché à avoir quelque chose qu'attendrait une partie de l'électorat de gauche. Et l'électorat de gauche, il attend quelque chose sur les retraites. Oui. Alors, peut-être
que Emmanuel Macron n'ira
pas jusqu'à l'abrogation, mais ce serait la seule solution.
Non, mais ce qui est la suspension.
On ne va pas trahir de secret.
C'est ce que Emmanuel Macron pourrait accepter au maximum, et encore, vu la situation politique.
Il pourrait accepter, de suspendre.
Et encore. Parce que normalement, c'est vraiment sa ligne
rouge. Ce serait la plus grande concession qu'il puisse faire aujourd'hui.
Non, on est bien d'accord. C'est juste que là, on est dans un climat tellement délétère. Éventuellement. Mais il pourrait aller jusque-là, mais il y a peu de chances qu'il aille jusque-là.
Oui, parce qu'il s'exige
centraire de secret de Polichinelle. On peut confirmer que à l'Élysée, ils étudient le cas d'Olivier Faure. On ne trahit aucun secret en disant ça.
Oui, mais Olivier Faure, lui, il est pour l'abrogation.
Pourquoi on n'arrive pas à répondre à cette question qui est quand même. C'est une vérité. L'hypothèse, je peux vous confirmer qu'à l'Élysée, ils étudient l'hypothèse d'Olivier Faure.
Ce que je trouve intéressant pour compléter, c'est que s'il y a un Premier ministre de gauche, pour compléter ce que tu dis, s'il y a un Premier ministre de gauche, à savoir Olivier Faure ou Bernard Cazeneuve, est-ce que la France insoumise est prête à soutenir? Parce que entre eux, rien que le programme, tout le programme, que le programme, comme si on avait tout gagné et que vous aviez une majorité absolue, et on fait la gueule et on veut une dissolution, voire une destitution, il y a quand même potentiellement un chemin. Et c'est ça que vous refusez.
Admets-moi justement ce chemin-là. Si vous faites l'hypothèse d'une majorité possible d'un gouvernement.
C'est pas une hypothèse, elle est sur la table.
S'il vous plaît, arrêtez de nous interrompre. L'hypothèse, c'est sur la table. Moi, je trouve ça très, très fictif, mais je vous fais le crédit de cette hypothèse. Donc, je pourrais déjà dire, à mes yeux, cette hypothèse n'existe pas. Mais si elle existe, la question qui se posera, c'est avec quelle majorité et pour faire quoi? Et donc, vous voyez bien que la majorité, avec la majorité avec laquelle il fera ça, c'est-à-dire une majorité qui ne veut pas abroger la réforme des retraites, et d'ailleurs, pour s'y préparer, Olivier Faure a déjà dit qu'il était prêt à suspendre et à ne pas abroger, etc., etc. C'est-à-dire que toutes ces choix, tous ces grands choix qui doivent avoir lieu dans le pays, pour ou contre la retraite à 64 ans, parce que les Français, en fait, à 93%, ils ont dit non, ils n'ont pas dit un peu, s'il vous plaît, un petit bout, cette retraite.
À 120%, je crois même.
Bien sûr, monsieur, 93% des actifs étaient contre la retraite à 64 ans.
Des actifs,
Excusez-moi, mais sur les retraites, voilà, ok, alors 93% des actifs. Sur les retraites, ça concerne quand même globalement.
Je ne connais pas qu'il y ait une majorité de gens qui soient pour l'abrogation de cette réforme, mais. Si on cite des chiffres, à ce moment-là.
93% des actifs et une grande majorité des électeurs et des Français.
Il y a beaucoup de retraités.
Alors, du coup, une majorité.
Il y a aussi des gens qui sont pour le marché du travail.
Okay, donc, vous voulez dire quoi? Qu'il n'y a pas une majorité de Français qui sont pour l'abrogation de la réforme?
J'ai pas dit ça, non. Je c'est juste.
Donc, on est d'accord? Ok, donc pas 93%, ça c'était que les actifs, et donc une majorité de Français. Ça vous va? Et aussi une majorité de Français qui s'est exprimée. Une majorité de Français qui s'est exprimée dans les urnes contre la retraite à 64 ans, d'ailleurs, en prenant parfois des
options. Sur les options.
Ça, c'est une grande option. Et on sait qu'il ne le fera pas.
Donc face à nous, j'aimerais qu'on écoute ce soir François-Xavier Bellamy des Républicains.
Pour nous, il est absolument clair que nos institutions doivent être respectées. Et le respect des institutions, c'est revenir au résultat de la dissolution, revenir à ces élections législatives. Il faut que le président de la République, s'il veut renommer un Premier ministre, nomme quelqu'un qui ne vienne pas de son camp. Il faut que le président de la République renonce à gouverner le pays, renonce à exercer le pouvoir.
Donc, il doit renoncer à exercer le pouvoir, dit François-Xavier Bellamy, revenir aux législatives et nommer quelqu'un qui n'est pas de son camp. Il est prêt à le faire, Bruno Jeudy ?
Emmanuel Macron ?
Oui.
Oui. Écoutez, là, il est dans une situation politique qui devient maintenant extrêmement, extrêmement compliquée. Il a même inventé quelque chose encore ce soir de assez surréaliste, hein, qui demande à son premier ministre démissionnaire de négocier avec les chefs de parti les conditions d'un programme acceptable, un compromis. Mmh. Mais pour le compte d'un autre Premier ministre. Mmh. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors après, moi je pense qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, exclut l'hypothèse 4 que nous a présentée tout à l'heure sur votre tableau.
C'est-à-dire la démission.
Ça y rejette. Et il fera tout pour éviter la dissolution. Qui aujourd'hui paraît quand même plus proche que la semaine dernière quand nous étions dans la même émission.
Donc, il va essayer de renommer quelqu'un à Matignon.
Je crois qu'il va essayer de voir s'il peut trouver une forme d'accord avec une personnalité de gauche. Je ne sais pas si ce sera Olivier
Faure. Il y a eu quand même des rumeurs comme quoi il pourrait potentiellement renommer Sébastien Lecornu. Est-ce que ça s'est écarté?
Oui, mais Sébastien Lecornu l'a exclu.
Donc ça c'est derrière nous.
Techniquement, Emmanuel Macron
il pouvait, mais Sébastien Lecornu, il y a plusieurs profils.
Il y a plusieurs profils qui sont étudiés. Olivier Faure en fait partie. À droite, il faut quand même
regarder. Gérard Larcher qui l'a rencontré.
Oui, il l'a rencontré. Et je pense que au fond, il faut quand même lui concéder qu'il laisse les Français observer que les parlementaires, enfin en tout cas les chefs de parti, ils sont pas capables de se mettre d'accord. Et on l'a vu tout à l'heure avec Madame la députée Léfi, quand on lui dit, mais vraiment avec beaucoup d'assurance, que oui, Olivier Faure est étudié, est-ce que si Olivier Faure va à Matignon, est-ce que vous votez la censure ou pas? Elle n'est pas capable de répondre. Donc cette démonstration qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui en train de faire...
Vous lui répondez, mais il voterait la censure sans
hésiter. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de créer, au fond, les conditions dans l'intérêt des Français. C'est ce qui est ce qui, moi, me déprime en réalité.
Regardez la question d'Alain qui nous regarde. Oui. Un peu de politique fiction, mais qu'aurait fait le général de Gaulle dans cette situation?
Il aurait démissionné après la dissolution.
Oui.
Exactement.
Oui. Ou alors il aurait trouvé des compromis.
L'histoire de la dissolution, donc on l'a eu déjà avec Jacques Chirac qui n'avait pas démissionné. Ça avait été un grand reproche qui lui avait été fait.
Mais il y avait une vraie
cohabitation. C'est vrai que la cohabitation ensuite a été plutôt plébiscitée par les Français. Et les présidents depuis, puisqu'il y en a deux qui ont dissous, ils sont restés en poste. Et
c'est normal. Maintenant que les politiques sont sortis du plateau, on va peut-être pouvoir s'écouter et débattre dans le calme et la quiétude d'un échange serein. Dans ce contexte, je crois qu'il faut arrêter de tourner le débat sur le qui. Est-ce que ça va être Bernard Cazeneuve? Est-ce que ça va être Olivier Faure? Est-ce que ça va être Jean-Louis Borloo qui a été cité aujourd'hui? Est-ce que ça va être un gouvernement technique dont on parle parfois qui pourrait peut-être apaiser les passions?
Ce que souhaitent d'ailleurs en priorité les Français, le gouvernement technique.
Certainement, parce que je pense que les Français, ils sont comme nous. Ils ont envie de calme, ils ont envie de quiétude et ils ont envie d'un peu de stabilité politique. Donc pour moi, la question, c'est pas le qui, la question, c'est le quoi. Et quand Daniel Cohn-Bendit nous dit il faut demander à chaque groupe parlementaire de présenter une copie, c'est peut-être... Oui. Déjà, une piste. On leur dit, vous avez 15 jours et on veut voir des budgets. Voilà. Présentez-nous des budgets.
Ouais, j'entendais Victor Hérault dire ce qu'ils ont déjà fait.
Mais c'est pas vrai, parce que la CFDT, ils ressortent bredouille à chaque fois qu'ils vont en réunion à Matignon, quels que soient les trois premiers ministres qui se sont succédés. Il n'y a pas de premier ministre.
Parce que ça passe
par Matignon, parce qu'on est bloqué dans la 5ème République du général de Gaulle. Ce que j'aurais aimé que le général de Gaulle fasse, sans faire de la politique fiction, parce que je me permets je ne permettrais pas d'imaginer ce qu'il aurait fait, c'est qu'ils reconnaissent que c'est la fin de sa République. Et sa République, c'est celle qui a duré le plus longtemps des 5 républiques que nous avons connues en France.
La 5e.
Et en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est terminé. Donc, on doit prendre acte de cette fin-là et construire quelque chose d'autre. Et cette construction-là, elle passe par le Parlement et elle passe par le compromis.
J'ai peu de doutes. Allez, je veux dire, 98% des cas, on sera dans une dissolution. Mais je voudrais juste vous répondre pourquoi ce n'est pas souhaitable la démission derrière une dissolution. Parce que tout simplement, Jacobelli ne voulait pas répondre. Oui. Dans l'hypothèse où le président de la République serait à nouveau désavoué dans le cas d'une dissolution, s'il devait démissionner, le prochain président aurait un casseau empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il ne pourrait pas lui-même dissoudre avant 12 mois.
C'est la grande crainte de Bruno Retailleau.
C'est quand même irresponsable que d'appeler à la démission à la suite d'une dissolution. Oui. C'est parfaitement incompétent
et méconnaître la Constitution.
La dissolution implique que le président ne démissionne pas pendant au moins un an.
Bien sûr. On sait tous que globalement, un président élu, il a 100 jours pour faire les choses.
Oui, exactement.
Sinon, c'est terminé. Donc, en fait, c'est un vrai. Et je vais vous dire une chose. Moi, avec si j'étais, je ne suis pas Emmanuel Macron, mais moi, je ferais, je dissous, et derrière, je dis, démerdez-vous pendant un moment, et vous allez voir, marrez-vous entre vous. Et moi, franchement, je le ferais.
Karim, qui pose la question, est-il encore possible de sortir de cette impasse sans provoquer une crise institutionnelle?
Bon, d'abord, je crois qu'on est dans la crise institutionnelle, voire, je dirais presque, moi, je fais toujours attention à ça, je pense qu'on est dans un début de crise de régime quand même, et il y a un peu de dislocation, d'autodestruction de la cinquième là qui s'est engagée. D'ailleurs, ça s'est engagé probablement avec la dissolution sans raison de 2024. Et aujourd'hui, on est dans une situation de blocage puisque quand même trois personnalités ont échoué à durer. Même si François Bayrou a réussi à faire le budget de 2025 grâce aux socialistes, Sébastien Lecornu, qui quand même avait sans doute posé les bases d'une bonne méthode. Je crois que ce qui s'est passé hier reste à écrire et reste à connaître dans les détails. Le dosage de ce gouvernement, 18 ministres, en gros 3 LR, 15 macronistes, si on met Rachida Dati, ça fait 4. Franchement, c'est une disproportion qui n'est pas qu'une provocation pour les LR. Quoi. Et là, l'Élysée est allé trop loin ils sont allés trop gourmands, trop vite, trop fort, trop haut et badaboum. Oui, on est dans une crise institutionnelle majeure et on voit bien que pour sortir du blocage, c'est très compliqué, à part, je vois pas par quel trou de souris ça peut passer, et donc on s'expose à une dissolution qui paraît maintenant
inévitable. J'aimerais vous remonter quand même peut-être l'image de la journée. Emmanuel Macron qui a été aperçu sur les quais de Seine du côté de l'île Saint-Louis.
C'est pas Baden Baden. Hein.
C'est qui chante Je marche.
Les plus anciens. Les plus anciens, c'est quand le président de Gaulle était parti réfléchir sur l'avenir de la France en Allemagne quelques heures.
Ça dit en tout cas beaucoup de choses, cette image du président. C'était ce matin, donc juste après que Sébastien Lecornu lui a remis sa démission. Il s'y attendait, vous pensez, ou ça a été un choc? Vous avez des infos là-dessus, Bruno, jeudi?
Sébastien Lecornu, à mon avis, ils en ont discuté un peu dans la soirée. Sébastien Lecornu, je pense qu'il a pris une décision grave, et d'ailleurs il est venu l'expliquer. Je trouvais que c'était assez digne, moi, comme attitude qu'il a eue, et il voulait pas ils se sont plantés clairement hier dans la constitution du gouvernement, et Bruno Retailleau, quand même, à mon avis, a pas très bien joué l'affaire aussi. Il a fait ce tweet, et puis derrière, on a basculé dans la séquence qu'on a.
Vous savez ce qu'a dit Bruno Retailleau, qui a critiqué la présence de Bruno Le Maire en disant.
Oui, il a sur le thème de la rupture.
C'est pas la rupture.
Je trouve que Bruno Le Maire, même si c'était un symbole,
Si on dézoome, vous savez ce qu'elle dit cette image? Elle dit que le destin de 67 millions de personnes repose sur un homme qui marche. Alors celui-là ou un autre. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir un homme sur cette image. Bruno, vous parliez à l'instant d'une crise de régime. Je vous rejoins totalement. C'est notre régime, la Ve République, qui prévoit que notre destin repose sur un homme. Alors à l'époque, c'était le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron.
La Quatrième
Emmanuel
République, Macron, c'était pas mieux.
Les partisans de la Ve République vont nous dire « Oui, mais la Quatrième République, ça crée trop d'instabilité. » Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a plus d'instabilité que sous la Quatrième République. Cette image doit nous
conduire.
Que cette image doit nous conduire à faire, c'est acter un changement de régime. Ça passe par le 49-3, ce qu'a fait déjà
l'esprit et la lettre des institutions ne sont pas respectées.
Merci beaucoup.
Le barrage républicain est contraire totalement à l'esprit de la Ve
République. Merci beaucoup. Demain, je vous donne rendez-vous à 20h, à 21h. C'est Maxime Switek pour le Forum. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit sur BFM TV. Merci de nous avoir suivis.